En fait, on commence par se trouver avec le résidu, en fait, de Akedat Yitzhak. Le résidu d'Akedat Yitzhak, c'est la mort de Sarah. Il y a le changement qui a lieu dans la personnalité de Yitzhak Avinu. Certains disent que c'est quasiment une nouvelle neshama qu'il a depuis qu'il a passé sur le Mizbeach, qu'Hachem a empêché Avraham Avinu d'aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, Sarah disparaît. Alors, bien sûr, il y a des explications, si c'est le fait que c'est l'information qu'on lui a donnée que Avraham était en train de sacrifier son fils, qu'il a tué. Certains disent que non, c'est pas ça, mais c'est que c'est l'aller-retour. D'abord, on lui a dit qu'il était en train de, qu'il l'avait tué quasiment, puis après on lui dit que c'est pas vrai, etc. L'aller-retour. Maintenant, il y a un autre point très important qui explique que Sarah Imenu meurt ici, surtout qu'elle meurt avant Avraham Avinu. Et vous vous souvenez probablement, on a déjà parlé, de ce que lorsque Hachem a promis à Avraham Avinu, enfin, qu'il lui a promis qu'il aurait l'accès à la terre et une descendance, etc. Et que Avraham Avinu a dit, mais tu me promets des choses, mais j'ai même pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant et c'est mon intendant qui va hériter. Alors Hachem, bon, lui a dit non, c'est pas ton intendant qui va hériter, tu vas avoir un enfant. Et entre-temps, il y a l'épisode avec Agar, la naissance d'Ishmaël. Et à ce moment-là, la Torah elle rapporte que Sarah a, en tout cas le Midrash l'explique, qu'elle a agressé littéralement Avraham Avinu. Elle l'a frappé, elle l'a griffé, enfin, ce qu'une femme peut faire à un homme. Et elle lui a dit, Hamasi Alecha, c'est-à-dire je t'en veux énormément, parce que quand Hachem t'a annoncé que tu as dit je n'ai pas d'enfant, et tu aurais dû dire nous n'avons pas d'enfant. Si tu avais dit nous n'avons pas d'enfant, de même qu'Hachem t'a écouté quand tu as dit je n'ai pas d'enfant, tu as eu un enfant, Ishmaël. Si tu avais dit nous n'avons pas d'enfant, nous aurions eu, toi et moi, donc Sarah et Abraham, nous aurions eu ensemble un enfant. Et elle dit, Yishpot, elle a appelé le jugement d'Hachem sur Abraham Avinu, qu'Hachem juge entre nous qui a raison. Alors on sait, on apprend aussi d'ailleurs de là, il faut jamais faire une chose pareille, parce que si quelqu'un appelle le jugement sur quelqu'un d'autre, alors au tribunal d'en haut, on va commencer par regarder, mais qui est-ce qui appelle le jugement là, qui est-ce qui accuse, etc. Et on, ben voilà, en général, comme personne ne fait jamais de faute, en général, on s'en sort pas. C'est son dossier à soi, celui qui éveille le jugement, qui appelle le jugement, c'est ce dossier-là qui est traité en priorité. Et donc, c'est ce qui s'est passé chez Sarah Imenu. Et donc, bien qu'en fait, par la suite, on va dire à Abraham, tout ce qu'elle te dit, Shema Bekola, etc., elle est plus grande que toi, on ne voit, etc., c'est très très fort ce qu'il dit. Vous vous souvenez, ce qu'on avait dit, c'est que on voit dans Hazal que Abraham Avinu, par rapport à Sarah, on ne voit, il était tafel, c'est-à-dire quantité négligeable, par rapport à la nevoie de Sarah, la prophétie. En prophétie, Sarah était incomparablement plus grande qu'Abraham. Abraham, l'expression est très, très dure. Il est tafel, il est quantité négligeable, littéralement. Bon. Et donc, une des raisons pour lesquelles elle meurt ici prématurément, d'une certaine manière, c'est ça. C'est que elle a appelé le jugement, il faut jamais faire ça. Bon, alors je reviens pas sur ce qu'on a vu très souvent là, toute la discussion d'Abraham Avinu pour acheter cette Marat Amarpella. Alors bien sûr, il doit discuter avec Ephron, qui est le propriétaire du champ au bout duquel il y a la fameuse caverne qui s'appelle Marat Amarpella. Bien sûr, Abraham Avinu sait de voir à Kodesh que Adam, Arishon et Chava sont enterrés dans cette caverne. C'est pour ça qu'il veut cette caverne. Et Ephron ne le sait pas. Mais bon, en fait, il y a quelques petites choses, des choses en passant avant de voir l'essentiel. Quand il négocie avec eux, Abraham Avinu il dit « Vaidaber Itam » dans le verset 8, les mots « Im yesh et nafshechem » Likbo et metim ilfanai shmauni ufiguli be'efron ben sofar. Si vous voulez vraiment, et ça veut dire comme si ici miyesh et nafshechem, le mot qu'on aurait mis a priori à la place de nafshechem, c'est retsonchem. Si vraiment vous avez une volonté de me laisser enterrer mon mort ici. Et donc Rashi dit pourquoi nafshechem? Nafshechem veut dire ici ratsonchem. Nefesh de ratson. Qu'est-ce que c'est l'homme? C'est une volonté en fait. Le Nefesh HaRaim, il le dit clairement, il dit que nefesh, ça pointe toujours sur ratson. Dans toutes les circonstances que dans toutes les situations, il faut entendre nafshechem, c'est la volonté. Quand on dit bechol levavchem, bechol nafshechem, bon, a priori, il faut entendre nafshechem, votre volonté. Bon, ça c'est une remarque en passant. Ensuite, si vous prenez le verset Tetzrain, le verset 16, le pasuk dit Vayishma Abraham el Ephron. Abraham a entendu ce qu'Ephron disait. Ephron lui disait que c'est pas une affaire entre nous, j'ai une petite affaire de 400 et quelques SF entre nous, on va même pas en parler, il fait comme s'il allait lui donner, etc. Et Abraham a bien compris et il lui a compté, Vaishkol Abraham l'Ephron et à Kesef, Asher Diber Beozne Bnechet, 400 shekels, kesef, over la socher. Il lui a donné ses 400 shekels d'argent. Over la socher, ça veut dire, en français, on dit sonnante et trébuchante. C'est-à-dire chacune des pièces, bon, aujourd'hui, on n'a plus tellement ce problème-là, mais quand on avait des pièces qui étaient vraiment en argent, ou etc., alors les gens rognaient la chose, et puis éventuellement les pièces pouvaient se casser, donc elles circulaient plus ou moins bien. Il lui a donné des pièces parfaites. Et si vous remarquez, il y a une petite différence. C'est au début du verset, quand c'est marqué, le verset dit, Vaishma Avram Ephron, et Ephron est écrit avec un vav. C'est-à-dire malé. Et ensuite, Vaishkol Avram l'Ephron et Akesef. Là, tout à coup, le vav a disparu. Le Rashi le remarque. Je l'ai fait remarquer. Et il dit, Chaser vav. Pourquoi est-ce qu'ici, au moment où Abraham lui compte l'argent, le fils chez Amar Arbe, il a dit des grandes choses, je te donnerai, c'est rien du tout entre nous, etc. Ça, c'est quand Abraham l'entend, il entend Ephron parler, oh, générosité, ils sont nul autre pareil. La filoméate l'a ça. Il n'a vraiment rien fait. D'accord, il a demandé une somme absolument astronomique. En passant, si vous regardez le mot Ephron, quand il est écrit sans vav, sa gematria c'est 400. D'accord, c'est comme si à ce moment il était réduit à ces 400 shkalim qu'il a demandé. Ensuite, le fameux verset qui dit que le chant d'Ephron, Vayakom, il s'est levé. Il s'est dressé le champ d'Ephron, c'est-à-dire avec la Marpella, etc. Pourquoi? Alors, d'abord, il faut remarquer que la Torah, elle parle, c'est très long finalement, pourquoi la Torah, elle consacre tellement de mots, de phrases, à cette histoire de la vente, on peut dire en trois mots, Ephron, il avait dit qu'il le donnerait, finalement, il a fait payer, Abraham a payé, rubis sur l'ongle, il a payé, et puis c'est tout. Toute la discussion, il a parlé à celui-là, il s'est prosterné. Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Pourquoi la Torah, elle parle si longuement de cela? Alors, Rashi dit que quand on dit que le champ, il s'est dressé, il s'est élevé, alors il dit, Kuma italo, shiasam yad ediot, liad melech. Il a eu une élévation, le champ, parce qu'il appartenait à Monsieur Tout le Monde, et puis il est devenu un champ qui appartient au roi. Abraham, c'est un prince. Mais ensuite, dit Rashi, Pshuto, shel mikra, mais maintenant le pshat, le verset, c'est simplement que, en réalité, comme la Hetz d'Abraham, dans le champ, il y avait tous les arbres, etc., qui étaient dans le champ. Tout ça, ça a appartenu à Abraham. Abraham a tout acheté. Et en fait, Rashi, on voit qu'il donne une première explication qui est proche du pshat. Parce que le mot vayakom, en fait, c'est différent, c'est un problème, c'est difficile de dire qu'il a passé de la main d'un simple bonhomme à la main du roi. On aurait dû dire vayavor ou un truc comme ça. Vayakom, donc Rashi dit d'abord quelque chose qui est très proche du sens premier du mot vayakom, il s'est élevé. Alors, ce qui est important, c'est que ici on voit qu'il y a un impact de l'homme sur la nature ici, sur le monde. On voit, par exemple, quand Yaakov Avinu s'est couché pour dormir là-bas et qu'il y a eu la lutte entre les pierres, puis ensuite les pierres se sont unifiées. Là-bas, c'est marqué Vayikach et Aeven. Il y avait 12 pierres, et puis elles se sont battues pour savoir où Yaakov allait poser sa tête, et puis elles ont été, quand Yaakov se lève, il prend la pierre. C'est-à-dire que ces 12 pierres se sont unies, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un lien vraiment entre l'homme et la nature. Et on voit aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand l'homme est trop petit, en fait, il fait dégringoler la nature. C'est-à-dire que, en fait, dans le Gan Eden, le Chazal dit, le Ramban le ramène beaucoup plus loin dans le Sefer Vayikra, le Ramban ramène que les animaux, les carnivores, en fait, ils ne tuaient pas dans le Gan Eden. Et après la faute d'Adam Harishon, alors, à ce moment, ils sont devenus des animaux, des prédateurs, enfin, qui allaient tuer. Donc, il y a eu une dégradation des relations. Donc, ça, c'est une... Bon. Ensuite, on voit très bien qu'il y a un impact de l'homme sur la nature. La nature change. La nature des choses change. Ensuite, on nous dit plus loin que Abraham était Zaken Baba Yamim, c'est le début du chapitre 24, comme Dalet. Et Chazal disent que, donc, comme vous savez, Baba Yamim, ça veut dire qu'il est venu avec, chacun de ses jours était plein. Il avait rempli chacun de ses jours. La Gemara, elle rapporte qu'il y a trois personnes chez Itiman, Akadosh Baruch Hu, Ba'olam Hazeh, Me'en Olam Haba. Il y a trois personnages. Akadosh Baruch Hu leur a fait goûter le goût, enfin quelque chose du Olam Haba dans leur monde, dans le monde, dans Olam Hazeh. Et ce sont les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et d'Abraham, on dit, où est-ce que, la Gemara dit, où est-ce qu'on voit qu'il a eu quelque chose qui est un goût de Olam Haba? C'est marqué, non, Abraham, c'est marqué sur Abraham, c'est écrit dans le Pasuk, que Hachem Birecht Abraham Bakol. Hachem a béni Abraham avec Bakol. Et on entend ici que la Gemara, elle considère que Bakol, ça veut dire, il a eu tout. Donc ça veut dire qu'il a dû aussi avoir quelque chose du Olam Haba. Sinon, ça c'est pas Kol. Kol, c'est tout. Et même chose chez les autres, Bakol, Nikol, Kol, comme on dit dans le Tat Amazon, c'est cette notion de Kol. Alors, on peut regarder la chose, c'est un long sujet, je suis pas sûr qu'on n'a pas déjà parlé de cela. Le Ramban, il, comme vous savez, on dit que Bakol, c'est qu'Abraham Avinu, il avait une fille qui s'appelait Bakol. D'accord? Est-ce que Bakal, c'est un nom de fille? Est-ce que c'est un drôle de nom pour une actrice qui s'appelle comme ça, qui s'appelait comme ça? Ou c'est un nom de fille? Et le Ramban, lui, il veut pas lire ça comme ça. Lui, il dit, le raboté nous baisait inyan nifla. Nos maîtres ont appris à ce sujet-là quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça, que yesh la kadosh baruch hu mida, kadosh baruch hu, il a une mesure qui s'appelle Kol. Parce que cette mesure, c'est le fondement de tout. Et c'est là-dessus que quand je vous dis, Anochi Hashem, Ose Kol. Moi, Hashem, je fais tout. Donc Hashem, c'est la huitième Mida des Shloshes Remidot. C'est la Lafim, etc. Et, ou Mida Acheret, et il y a une autre mida qui s'appelle Bat, qui est issue de cette mida-là. Et c'est avec cette mida-là, cette mesure-là, qu'Akadosh Baruch Hu gouverne le monde. C'est-à-dire que c'est la royauté divine. Cette mida, elle s'appelle, pour Abraham, elle s'appelle Bat. Parce que lui, il est, en quelque sorte, Ish Achesed, l'homme de Chesed, comme si il était l'époux de Chesed, et il a une fille, et la fille, c'est cette Mida avec laquelle HaKadosh Baruch Hu gouverne le monde. Donc, on voit ici, comment le Ramban lit le Chumash, en fait. On peut expliquer un peu mieux ce Ramban, la manière suivante. Peut-être il faut dire deux mots d'abord de ce que sont ce qu'on appelle les midot. Alors, le mot mida veut dire mesure. Mida, c'est une mesure. Donc, évidemment, quand on dit qu'Hachem a des mesures, on n'est pas du tout en train de faire de la théologie, on n'est pas en train de dire quelque chose sur les mesures d'Hachem. Premièrement, sur Hachem, on peut absolument rien dire. Et que, évidemment, il n'a pas de mesure. Il n'est pas mesurable, si vous voulez, bien sûr. Bon, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en réalité, quand on parle de mesure? Mesure, ça veut dire que Hachem dévoile une certaine façon de gouverner le monde. On regarde le monde, on voit qu'il est gouverné selon certains principes, certaines mesures, en fait. Et pourquoi est-ce qu'il nous dévoile cela? Évidemment, c'est toujours pour nous, c'est-à-dire pour nous dire que cette mesure, cette façon de se conduire, est une bonne façon de se conduire. Donc, nous, dans le la mitzvah d'imiter Hachem, donc ces midot qu'Hachem dévoile, ces façons de gouverner le monde, sont des indications qui nous sont données sur ce que nous devons essayer de, ce que nous devons viser en quelque sorte. Donc, en fait, si on dit que on parle de chesed comme étant une mida d'Hachem, ça veut dire que les hommes doivent s'efforcer de réaliser dans leur vie du chesed. Et Abraham, effectivement, cette mida de chesed, il l'a complètement apprise d'Hachem, il l'a intégrée, elle est devenue en quelque sorte sa caractéristique. Et du coup, il a dévoilé la notion de malchut, puisque c'est la suite de ces shloshes remidot. C'est-à-dire, quand Hachem a montré cette mida de malchut, de royauté, alors, c'est ce que, finalement, il y avait une royauté qui émanait, en quelque sorte, d'Abraham, au point que les Bnechet, ils lui disent, Nasi Elohim ata b'tochenu, tu es un prince d'Elohim parmi nous. Ils ont remarqué qu'il avait une conduite de roi. Je sais pas, eux, ils ont peut-être pas voulu l'imiter, mais ils voient bien que, voilà, c'est... Hazan nous dit donc que cette dimension de malchut, de comportement royal, en quelque sorte, elle existait chez Avraham Avinu, elle était que bat. C'est comme, c'est-à-dire que lui, il est chesed, et cette midala était un dérivé, en quelque sorte. On voit donc dans le Ramban qu'on a ici je pense, ce que Fazal nous ont dit que dans cette histoire de la bat d'Abraham qui était donc le verset à partir duquel les Chachamim ont déduit que Abraham Avinu il avait en lui déjà quelque chose qui était dû Olam Haba. Olam Haba, c'est donc la suite des Yemot HaMashiach, etc. Celui qui dévoilera le plus parfaitement possible la Malchut d'Hachem, c'est bien sûr le Mashiach, un Melech HaMashiach. Et en tout cas, on nous dit ici que le Shoresh, la racine de toute cette affaire-là, était déjà chez Abraham Avinu, à travers son chesed. Mais maintenant, c'était pas encore complet. Ça veut dire, il est Nasi Elohim, mais c'est pas, on n'est pas encore à la Geoula. On n'est pas encore, on n'a pas la liberté encore. On n'est pas, c'est pas parfait du tout encore. La preuve, c'est que les gens ont continué de pratiquer l'idolâtrie. Abraham Avinu, c'est le tikkun, il arrange le shoresh, la racine, dans le clan d'Israël, pour les mettre, en quelque sorte, dans une posture telle que, ultimement, ultérieurement aussi, cette royauté de l'Hachem pourra se dévoiler grâce à eux dans le monde. Alors ça va durer jusqu'au temps du Mashiach, mais les racines, pour que ça soit possible en fait, c'est un travail que Abraham Avinu a fait en s'inspirant de cette mida qu'Hachem a montré dans le monde. C'est comme ça qu'il faut entendre en fait les midot, souvent on dit Hachem il fonctionne, etc. C'est évidemment pas des mesures d'Hachem, mais ce sont des enseignements pour nous, pour intégrer justement ces façons de se conduire en réalité. Ensuite, je saute un peu, et puis voilà, Avraham Avinu, donc on avait dit, il est âgé, etc. Alors, comme vous savez, il convoque Eliezer et son serviteur, et il lui ordonne d'aller chercher une épouse pour Yitzhak. Alors, juste un mot sur pourquoi est-ce que c'est pas Yitzhak qui va lui-même chercher une épouse. Il avait 37 ans à la Akedah, donc il a 37 ou 38 ans, ou enfin 40 ans, et pourquoi il y va pas tout seul? Il y va pas parce qu'il peut pas sortir d'Eretz Israël. Parce qu'il est une Ola, parce qu'éventuellement, ou bien il a un statut, ou bien de Kohen Gadol qui ne peut pas sortir d'Eretz Israël, ou il a un statut d'une Ola, une Ola non plus, il ne peut pas sortir d'Eretz Israël, donc il peut pas, et Abraham veut une femme pour son fils qui soit de sa famille en quelque sorte. Tout va se jouer effectivement, tout va se jouer puisque on a déjà dit plusieurs fois que les Avot et les Imaot, tout ce monde-là vient de la famille d'Abraham. C'est les descendants de Terach, les trois fils de Terach. Il y a ceux qui sont descendants d'Abraham et Nahor va produire Rivka et Rachel et Léa. Et puis on va avoir un complément extérieur aussi. Il va y avoir nécessité de, parce que c'est une forme de métissage, c'est pas un métissage très très lointain en quelque sorte, parce que c'est le troisième fils, Aran, qui lui donc meurt et qui, comme vous savez, laisse trois orphelins, deux orphelines qui vont être les épouses d'Abraham et de Nahor. Donc là aussi, c'est toujours le descendant de Terach. Et un orphelin qui est Lot. Et Lot, lui, il va avoir deux enfants avec ses filles. D'après ce dôme, on a un inceste avec ses filles, il va produire ces deux enfants qui sont Amon et Moab. Et Amon et Moab sont des éléments un peu plus, enfin ils sont c'est les enfants de Lot, en réalité, c'est Lot avec lui-même, d'une certaine façon, c'est Lot avec ses filles. Et Amon et Moab vont jouer un rôle dans l'ascendant, enfin, ils seront les ascendants du Mashiach. Bon, parce que Moab, c'est Ruth, et Amon, c'est Nama, c'est l'épouse de Shlomo HaMelech. Donc, comme le Mashiach descend de David par Shlomo HaMelech, donc, c'est-à-dire de Ruth et de Nama, Amon. Donc là, c'est ça, c'est tout entier dans la même famille. C'est un peu paradoxal, même on va retrouver le même problème, si on peut parler comme ça, dans le triplet qui va diriger les Bnei Israël à la sortie d'Égypte, Moshe, Aaron et Myriam aussi, donc, frères et sœurs, plein d'Israël dirigé, ben, il provient d'une famille, et puis ensuite il est dirigé de façon décisive, par les enfants d'une seule famille. On pourrait peut-être réfléchir sur pourquoi ça se passe comme ça, mais c'est comme ça. Donc, Avraham Avinu envoie Eliezer chercher une épouse. Alors, vous savez, il donne à Eliezer quasiment toutes ses richesses, parce que, en fait, on veut montrer qu'il les a donnés à Yitzhak, donc c'est un chidour intéressant, Yitzhak. Il est extrêmement riche, enfin, il a des espérances, comme on dit. Enfin, son père le lui donne quasiment même de son vivant. Alors, Eliezer arrive là-bas, et bon, comment on fait pour trouver la fille en question? Alors, il prie. Et puis il demande à Hachem de faire une espèce de miracle, quoi, que effectivement il fait un test, il définit un test, il dit la fille à laquelle je demanderai de me donner à boire, et qui me dira à boire, et je donnerai aussi, j'abreuverai aussi tes chameaux, alors je saurai, dit Eliezer à Hachem, que c'est cette fille-là que tu as destinée à Yitzhak. Bon, alors évidemment, Chazal ne sont pas du tout contents de la façon dont il a posé cette chose. Il a mal demandé, mais bon, Hachem, ça s'est bien sorti. Arrive Rivka, une bergère. On voit du texte que c'était l'habitude, que c'était les filles qui étaient les bergères. Par la suite, on verra que c'est pas toujours comme ça. Après, on va voir que les filles vont être bergères, mais il va y avoir des bergers aussi. Tant à l'époque de Yaakov ou à l'époque de Moshe Rabbeinu. Enfin bon, là, Laban, lui, il envoie ses filles comme bergères. Et donc, il voit Rivka et il lui demande. Et elle lui répond sans que... Bon, elle lui répond exactement ce qu'il attend. Et voilà, il est époustouflé, en fait. Il commence par lui donner des cadeaux. Puis après, il lui demande, dis-moi, tu es la fille de qui? Donc, il donne les cadeaux. On dit que il a donné les cadeaux parce qu'il était sûr que ça avait marché. Il est sûr qu'Hachem avait fait un miracle pour son maître Abraham. Mais enfin, il lui demande quand même qui elle est. Bon, alors, elle dit qui elle est, c'est parfait. Et il lui demande aussi s'il y a de la place pour lui et ses chameaux. Alors, elle dit oui, on a tout ce qu'il faut. Et alors à ce moment-là, bon, il exprime sa reconnaissance à Hachem sous la forme de Baruch. Baruch Hachem Elokei Adoni Abraham, comme on voit aussi que Malkitsedek, qui est en fait Shem, qu'il a vu Abraham, il a dit Baruch Kel Elion. Le mot Baruch, on sait du Nefesh HaChaim, que le mot Baruch ne veut pas dire béni, mais il veut dire que Kakadosh Baruch Hu, qui est celui qui peut bénir, que lui effectivement il amplifie, il t'amplifie en fait. Et donc bon, il demande à... C'est comme s'il demandait encore. Il a compris, là, que Hachem avait vraiment guidé. Il y a de la hashgacha, là, dans cette affaire. Alors, il demande que ça continue, en quelque sorte. Baruch. Alors, bon. On va passer sur Laban qui, quand il a vu qu'il y avait de l'argent dans cette affaire, il y avait de la richesse et tout, Laban, il se précipite en faisant comme si c'était lui qui avait déjà fait la place pour les chameaux, etc. Il prend tout de suite, il s'attribue le mérite d'avoir fait les choses alors qu'il n'a rien fait. Simplement, il y a de l'argent à prendre, il veut prendre cet argent. Et donc, là, il se passe une drôle de chose, c'est marqué que Laban, quand il s'adresse à Eliezer, il lui dit « Bo Baruch Hashem, viens, béni d'Hashem, lama ta'amod bachutz, pourquoi tu restes à l'extérieur, alors que j'ai complètement débarrassé la maison, j'ai fait de la place pour. » Et la question qu'on peut demander, il utilise le nom d'Hashem ici, d'où il le connaît. D'où est-ce que Laban connaît le tétragramme? Quand il dit Baruch Hashem, c'est avec le tétragramme. Alors, en fait, depuis la création, les goïms connaissaient Hashem. Sauf qu'avec le temps, comme ils ont développé l'idolâtrie, etc., ils l'ont plus ou moins oublié. Ils se sont même mis a utilisé le nom d'Hachem pour l'Avodah Zara. Et c'est la raison pour laquelle Abraham a envoyé Eliezer dans sa famille, parce que dans sa famille, il restait encore un peu de connaissance d'Hachem lui-même. Et donc la Torah nous raconte ici cela sur Laban. Elle nous donne un peu une idée de pourquoi Abraham Avinu a choisi cette famille-là pour chercher une fille pour prendre une fille comme épouse pour Yitzhak. Bien. Alors, ils ont fait entrer Eliezer. Il s'est installé. Puis on lui a donné à manger. Et il a dit, je ne mangerai rien avant d'avoir dit ce pourquoi je suis là. On apprend que c'est comme ça qu'il faut se conduire. Alors, il leur raconte tout. Il raconte tout, il raconte comment Abraham l'a chargé de mission, comment ça s'est passé, tout ce qui s'est passé, toute l'histoire avec la fille, etc. Alors, bien sûr, il y a des petites différences sur lesquelles on peut s'arrêter, ça vaut la peine peut-être, mais on va pas faire ça maintenant. Et bon, il raconte dans tout le détail, j'étais là au puits, et elle est venue, etc. Et il dit, j'avais à peine fini de prier, ce qu'il raconte, qu'il a prié Hachem, que Rivka arrive. Elle a sa cruche sur son épaule, elle descend au puits, elle puise, et moi je lui dis à ce moment-là, donne-moi à boire. Alors on voit d'Eliezer ici, en tant que, évidemment, Eved Abraham, on voit un chidouche dans la tfila. On voit que la tfila, il a prié, mais qu'est-ce qu'il dit? Tere machalel daber el libi. J'avais à peine fini de parler à mon cœur. C'est ça la prière. Donc il y a une définition qui vient de la maison d'Abraham, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que la prière? Dans le Zohar, on voit que un homme qui veut bien prier, il faut qu'il cherche Hachem dans son cœur, dit le Zohar. Parce que c'est là-bas, c'est là qu'il est. Et à ce moment-là, c'est ça la prière. Alors bien sûr, il y a beaucoup de façons de prier. C'est marqué dans Chazal, dans la Gemara, que celui qui prie, il faut qu'il s'imagine que qu'il est devant Hachem, en quelque sorte, devant la présence divine. On dit le verset Shivit Hachem Negitamid, la présence d'Hachem est devant moi en permanence. Et ça, c'est une façon de prier, en fait. Alors peut-être, peut-être qu'il faut entendre cela de la manière suivante, c'est que d'abord, l'homme doit se regarder lui-même et il doit s'imaginer qu'il est devant Hachem. Une fois que c'est fait, alors il peut aller regarder effectivement plus profondément dans son cœur où il en est exactement. Dans les halachot de Tfila, on a déjà parlé de cela, quand on en parlait dans Alishour, etc., la prière, c'est d'abord se tenir devant Hachem. Donc il faut d'abord prendre conscience que je suis devant Hachem. Et puis, d'une certaine manière, si on n'a pas pris cette conscience d'être devant Hachem, d'une certaine manière, c'est pas vraiment ça la prière. Si on n'a pas pris conscience, c'est un manque fondamental, en quelque sorte. C'est avant qu'on parle, avant de demander quoi que ce soit, d'abord se dire, je suis devant Hachem. Et après, on peut commencer. Alors, il dit, voilà, elle arrive là et je lui ai demandé. Et puis, elle a fait exactement ce qu'on attendait, ce que j'attendais. En fait, de donner à boire au chameau, après avoir fait boire Eliezer, c'est pas seulement du chesed. C'est en fait de l'intelligence. Parce que tel que c'est décrit, on a presque l'impression que elle lui a donné à boire de sa cruche. Or, c'est un bonhomme qu'elle connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et maintenant, il n'a pas bu tout ce qu'il y avait dans la cruche. Elle va pas maintenant ramener à la maison l'eau dans laquelle a bu la cruche avec l'eau, et après que l'étranger en question, il a bu dans sa cruche, c'est pas très responsable, c'est imprudent. Mais d'un autre côté, après qu'il ait bu, c'est-à-dire reverser toute la cruche par terre, et puis aller la nettoyer et aller repuiser, c'est un peu lui faire honte. Et par contre, si maintenant elle passe, et qu'elle donne à manger, à boire au chameau. Alors, ok, ben, les chameaux peuvent boire ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Et puis ensuite, c'est normal, même s'il reste de l'eau, elle renverse cette eau et qu'elle nettoie la cruche. Donc, c'est aussi très intelligent de, après l'avoir fait boire lui, de faire boire les chameaux. Pas simplement une générosité de, voilà, il faut aussi faire boire les chameaux de la personne en question. Alors, il raconte tout ça à Lavan et, enfin, à Betuel, et sa femme et à Lavan. Et puis, eux disent, ils répondent, ils m'ont dit, voilà, bien sûr, bien sûr, visiblement c'est la main d'Hachem, c'est sûr. Donc, on n'a rien à dire, ni en bien ni en mal, on n'a rien à dire, rien. Alors quand il entend ça, et lui de nouveau il se prosterne, il dit ça. Et puis bon, ben d'accord, c'est voilà. Alors bon, c'est négocié. Bon, elle va aller là-bas. Elle va devenir. Alors maintenant, il suggère, dans le Passouk 55, Nouné, on se marquait dans le Passouk, Vayomer Achia Veima, son frère et sa mère, ont dit, Teshev Anahara, que la jeune fille reste chez nous, Itanu, Yamimo Asor, Achapelech. C'est-à-dire, en fait, un an, Yamim, ça veut dire, ou un an, ou 10 mois, et ensuite, elle ira. Alors, la première chose qu'il faut remarquer, c'est, le texte porte, qui est-ce qui parle? Le frère et la mère. Et Rachid dit, et Betuel, où il était, le père? Non, le père, il est mort. Alors, Rachid dit, le père est mort parce que Ayarotse l'Akev ou Ba Malar Vehimiton. Lui voulait empêcher le mariage. Il y a un malar qui est venu qui l'a tué. Chazal disent qu'on voit ici que Laban c'est un rachat parce que avant déjà il avait parlé avant son père. Dans le verset Noun, c'est marqué Vayan Lavan ou Betuel. Normalement, On aurait dû dire Betuel Velaban, le père avant le fils. Donc on dit que c'est un rachat. Mais à la limite, d'où est-ce qu'on voit qu'il était un rachat? Laban, on voit que son père voulait empêcher. Donc c'est le père qui était, donc à la limite qu'il ait poussé le père et qu'il ait dit, bien, nous on est d'accord. Voilà, donc effectivement, c'est pour ça que de Rachi, on voit que c'est pour ça qu'il est mort, et donc on n'est même pas sûr que Laban soit si mauvais à ce moment-là, en tout cas. Donc il semble que même si le père voulait s'opposer, le dernier reste, c'est que le fils il peut quand même pas parler avant son père. Mais il y a d'autres explications. Effectivement, il fallait qu'il disparaisse parce qu'il voulait s'opposer. Mais en vérité, Chazal dit qu'ils avaient évidemment empoisonné le verre d'Eliezer. Et c'est le malin Gabriel qui a échangé son verre et celui de Betuel. Et donc Betuel est mort, empoisonné par le poison qu'on a voulu faire boire à Eliezer. Pourquoi il voulait tuer Eliezer? Pour prendre son argent. Il est venu avec plein de richesses. Il n'allait pas le laisser repartir comme ça. La fille, ça ne les dérange pas tellement. Mais enfin, ben, la fille, ils vont pouvoir la garder. Si on tue Eliezer, on fait main basse sur les richesses et voilà, terminé. Et quand ils voient que ça marche pas, alors ils disent, ben, peut-être que si elle reste quelques mois, on aura peut-être l'occasion de tuer enfin ce Eliezer. Mais Eliezer, il leur répond, non, comme Hachem a fait réussir ce que j'ai fait, Hachem écoute, je veux partir tout de suite, ne me retardez pas. C'est-à-dire, quand Hachem fait réussir, c'est pas le moment de pas profiter, en quelque sorte, sur la lancée. Hachem visiblement veut ça. Bon, alors ils ont essayé. Ils ont dit, mais peut-être qu'elle ne voudra pas aller. Alors, ils lui ont posé la question, est-ce que tu iras avec le monsieur, là, en quelque sorte, qu'elle ne connaissait pas, etc. Dans le Midrash, on dit qu'elle a répondu, j'irai, même si vous n'êtes pas d'accord, j'irai aussi. J'irai quand même. Donc bon, visiblement, ils n'ont pas voulu ou pas pu s'opposer. Et à ce moment-là, quand elle part, il lui donne une bracha. Vaivarchu, Laban et sa mère enfin, donnent une bénédiction à Rivka. Et ils lui disent, apotez-nous, notre sœur, Ataï le Alfer Baba, je souhaite de devenir des milliers de myriades, Viraj Zaracha et Char Sonav, et que tes descendants soient plus forts que tous les ennemis. La kavana ici de Laban, elle est étrange. Oui, cette bracha là, comme vous savez, c'est la bracha que nous aussi, aujourd'hui encore, on donne à toute kala qui sort de, qui va entrer sous la choupa, on lui donne cette bracha. Plus exactement, on lui donne la moitié de la bracha. La partie virage de Racha et Charles Sonab, jamais entendu qu'on le dise. On dit seulement la première partie. La première partie, elle est très importante parce que dans le Sefer Bamidbar, vous vous souvenez, on a l'habitude de dire qu'il y a Hamisha Chumshe Torah, qu'il y a cinq livres de la Torah. Mais en réalité, il y en a sept. Parce que le livre de Bamidbar, il est partagé en trois. depuis le commencement du livre, jusqu'à, vous savez, il y a deux nous à l'envers. Entre les deux nous à l'envers, il y a deux versets qui en tout contiennent 85 lettres. Et ces versets, c'est des versets qu'on dit au moment de rentrer le Sefer Torah dans le Aaron. Uvnucho yomar, Shuvah Hashem rivot alfei Israël. C'est le deuxième verset. Le premier verset, il dit Kuma Hashem, lève-toi Hashem, etc. Donc ces deux versets-là, c'est une fila de Moshe Rabbeinu, demandant à Hachem, effectivement, comme vous savez, le clan d'Israël dans Bamidbar, il circule sur l'ordre d'Hachem. Il y a une nuée qui, quand elle se met en marche, alors les ministres se mettent en marche, ils quittent l'endroit où ils avaient campé pour aller vers un nouvel endroit où ils vont camper. Et ils s'arrêteront dans ce nouvel endroit quand la nuée s'arrêtera. Et donc, ici, il y a l'expression, justement, « Rivevot alfei Israël », qui est la même chose que ce que Laban a souhaité à sa sœur. Chazal disent que la Shrina, elle ne peut pas reposer sur le clan d'Israël si le clan d'Israël a moins de « Rivevot », c'est le pluriel de « myriade », donc c'est deux myriades, 20 000, Alphée, c'est le pluriel de deux mille. Donc, si le clan d'Israël descendait en dessous de 22 000 personnes, il n'y aurait plus de Hashkat Hashkina. Donc, il semble, d'après le Midrash, que c'est de la Kavana de Lavan, c'était de faire une bracha pour que sa sœur soit la source du clan d'Israël, d'un clan d'Israël qui est le minimum nécessaire pour qu'il y ait un Shrat Hashkina. Et que ça provienne d'elle. Pourquoi tout à coup Laban a voulu ça, je ne sais pas. Alors bien entendu, la bracha est magnifique, mais c'est gênant d'utiliser une bracha qui a été concoctée par Laban, sauf à dire que c'est Hachem qui lui a mis les mots dans... Et puis, mais Hachem, pourquoi Hachem a choisi que ces mots viennent de lui? Alors on peut dire, c'est une façon de montrer que Hachem... de montrer que Hachem veut que même les goïms reconnaissent le clan d'Israël, reconnaissent effectivement la nécessité que le clan d'Israël soit assez nombreux pour qu'il y ait Hashkat Hashkina, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que si le clan d'Israël fait ce qu'il a à faire, c'est tout bénéfice pour eux aussi. Non, c'est compliqué. Ils auraient voulu en être, mais ils n'ont pas voulu finalement. Et ils voient que le clan d'Israël, bon, il fait ce qu'il faut. Mais justement, ils nous en veulent aussi quand on fait pas ce qu'il faut. Donc c'est très complexe. En tout cas, visiblement, il y a une volonté que les Umot HaOlam, enfin que les Goïm, eux aussi, reconnaissent la nécessité pour le clan d'Israël d'être à la hauteur, en quelque sorte. Et lui, il souhaite que ça vienne de sa famille, que ça, au moins sa sœur. Quelque part, sa sœur. Ensuite, on voit très bien que, quoi qu'il en soit, il va y avoir ce frère et cette sœur, malgré tout, ils restent relativement proches. Je vous rappelle que, il y a un accord entre Laban et Rivka. Un accord qui est que Rivka a deux garçons et Laban il a deux filles. Enfin, et ils ont décidé que l'aîné de Rivka allait épouser l'aîné de Lavan. Et le deuxième, la deuxième. Donc, le chidouch entre, enfin, c'était concocté comme ça, le chidouch Esav, Léa et Yaakov, Rachel, c'est un chidouch qui a été concocté par Lavan et Rivka. Donc, ce Lavan, il est très étrange. C'est un rachat, ce que vous voulez, mais néanmoins, et il donne ses filles quand même au fils de Rivka. Donc, a priori, elles vont passer de l'autre côté, ces filles. Bon, après, il a toujours l'intention de faire rater le projet de Yaakov. Mais bon, c'est très, pour l'instant, c'est très ambigu. Voilà. Donc, l'affaire est faite. Rivka est partie avec Eliezer. Elle est assise en réalité sur le même chameau que Eliezer. Et puis, ils arrivent en vue de... C'est-à-dire, ils arrivent... Voilà. Et en même temps, la Torah nous dit que Yitzhak ba niveau ber la chayroi, il vient du puits qui s'appelle ber la chayroi. Vous vous souvenez, ber la chayroi, c'est le puits qui a été nommé ainsi par Agar. C'est le puits où Agar a rencontré le malach qui a parlé avec elle, et c'est l'endroit où elle a, Hachem lui a montré une source pour abreuver son fils, elle-même aussi, probablement. Et lui, Yitzhak, il va prier là-bas. Prier, méditer là-bas. Il habite pas là-bas, à ce moment-là. À ce moment-là, il habite à Beersheba, avec son père. Mais pour prier, on dit qu'il est allé prier là-bas, Mincha, c'est lui qui a inventé Mincha, enfin qui a fait que Mincha est devenu une obligation. Voilà, il en vient. Et Rashi dit que là, il y a quelque chose d'autre encore qui se joue. Pourquoi il vient de là-bas? Rashi dit chez Allah le Avi Hagar le Avraham Avinu, Abraham Aviv chez Israël. Quand ils sont redescendus du Moria, où a eu lieu la Akeda, Avraham Avinu, il va descendre et à terme, il va avoir des enfants, il va se remarier, on va voir. Il va se remarier, il va avoir des enfants qui ne seront pas des juifs pour utiliser cet homme. Parce que quand Hachem a changé son nom et qu'il est devenu Avraham, il est devenu Avramon Goïm. Avraham est devenu le père d'une multitude de peuples. Alors, on pourrait penser à multitude de peuples. Ça pourrait se jouer à l'intérieur du clan Israël parce que les tribus sont des peuples. Chaque tribu est un peuple, en fait. Mais bon, ça suffit pas. Il va avoir d'autres peuples qui vont descendre de lui. Qu'ensuite il va envoyer vers l'Est. Des hindous, des chinois, je sais pas. En tout cas, bon, Abraham descend, mais à ce moment-là, le patriarche qui commence son temps, en quelque sorte, c'est Yitzhak. Abraham n'est plus le patriarche du clan d'Israël, puisque maintenant il va construire autre chose. Et c'est Yitzhak qui est en charge. Alors, Abraham, en tant que son père, il s'est occupé de lui trouver une épouse. Et lui, en tant que patriarche, il va aussi trouver une épouse pour son père, puisqu'il est le père. Enfin bon, c'est un jeu de mots, mais en fait, là, Rashi dit, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Shalach la vie Hagar la Abraham Aviv chez Isaïna. il est allé chercher Agar, lui Israël, pour qu'Abraham épouse Agar. Vous savez, il y a une discussion pour savoir si Ketura, qui est le nom de la femme que Abraham va épouser, est-ce que c'est Agar? Ici, Rachid dit clairement que c'est Agar. Elle s'appelle aussi Ketura. On fait son éloge, en fait. Et là, on voit Yitzhak Avinu, il va chercher la femme qui a été la concurrente de sa mère. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué parce que dans le texte, c'est marqué que quand Abraham a renvoyé Agar et Ishmaël, c'est marqué dans le pasuk Vatelech, Vatita, Bamidbar, Be'er Shava. Et Rashi explique là-bas, Shechazra le Gilule Betavia. Il est retourné à l'idolâtrie, semble-t-il. Je vous rappelle, Agar, c'est une princesse égyptienne, n'est-ce pas? C'est Paro qui a donné Agar comme servante à Sarah, en disant, il vaut mieux être servante chez Sarah que princesse en Égypte. Comment est-ce que c'est possible que maintenant, Abraham la reprenne comme épouse? Donc il faut entendre que quand on dit qu'elle est revenue au Gilulé Betavia, aux idoles de la maison de son père, aux idoles égyptiennes, ça veut dire seulement qu'elle a eu, à un moment donné, une pensée que peut-être que je vais revenir. Elle vient de se faire chasser de chez Abraham. Où elle va aller? Peut-être que je reviens chez mon père. Mais en vérité, elle est restée l'élève de Sarah. Elle est l'alter ego quasiment de Sarah. Et Abraham, il peut l'épouser. On est obligé de le dire comme ça. Et en plus, on va dire après qu'elle est Ketura. Elle est comparable à l'encens, c'est-à-dire au corban le plus élevé, le plus éthéré et aussi le plus élevé qui soit. Donc on dit que c'est Naïm Maaseh Ktoret. Ses actions sont comparables à Ktoret. Donc on ne peut pas dire qu'elle est retournée à l'idolâtrie. Il faut entendre quand même ici que quand la Torah dit quelque chose, la Torah, elle ne laisse pas passer même une petite pensée qui a passé pendant un certain temps. Quand elle s'est dit, peut-être que, dans la situation qui était la sienne, peut-être que je retourne chez mon père, c'est-à-dire retourner dans une maison d'idolâtre. Cette pensée, elle l'a pas du tout poursuivie. C'est la Torah, elle laisse pas passer. Voilà, il y a eu ça, il y a eu cette pensée. C'est ça que la Torah a dit, qu'elle est retournée. La pensée de retourner à l'idolâtrie, c'est déjà, même si ça a été extrêmement fugace. La Torah appelle ça déjà retourner. Je fais très attention. Ici, c'est problématique parce que si on lit le verset, si on lit la Torah sans cette réflexion, etc., si on lit les choses comme elles sont, comme elles sont décrites, simplement si on lit littéralement les choses, on a l'impression qu'Abraham, il va épouser une Agar idolâtre. Avec l'accord d'Yitzhak. Yitzhak qui lui présente. Et donc, voilà. Et donc Yitzhak, lui, va prier là-bas. Et C'est marqué qu'à ce moment-là, il voyait Tse Yitzhak la soif bassadé. Littéralement, on pourrait dire, Yitzhak est allé prier dans le champ, vers le soir, donc c'est Mincha. À ce moment-là, Vaïsa Enav, Vayar Vineg Malim Baim. Donc, il avait fini de prier, il a levé les yeux, il a vu des chameaux sont en train d'arriver. La souach, Vassadé, Rachidi, c'est la chantefila, c'est, comme on dit, Ishbor Sicho, déverser sa sicha, c'est une expression de prière. Alors, le mec d'Avar, il dit, on peut pas dire qu'il est allé prier dans les champs, dans le champ, parce qu'on n'a pas le droit de prier dans un champ. Il faut prier ou contre un arbre ou contre un mur, ça ne peut pas prier comme ça, au milieu de nulle part, en quelque sorte. Alors, certains veulent dire qu'en réalité, quand on, cette notion de champ ici, elle veut dire la chose suivante. Vous vous souvenez peut-être que les Chachamim disent que l'idée de Bet Hamikdash ou Mishkan, pour les Avot, chacun des Avot le voyait différemment. Avram, il le voyait comme une montagne. Et non, Moria. Yitzhak, il le voyait comme un champ. C'est un lieu de travail. Le travail de la Avoda. Dans le Bet Hamikdash, il y a la Avoda. Et Yaakov Avinu, il le voyait comme un bait. C'est pour ça qu'on dit Bet Hamikdash. Il le voyait comme une maison. Une maison dans l'intimité de laquelle il y avait une relation avec Hachem. Donc ici, on vient nous dire que Yitzhak est allé prier au sujet du chant, c'est-à-dire au sujet de la avoda. La avoda, c'est généralement c'est aussi la parnassa. Et dans la parnassa, c'est quoi? C'est demander à Hachem qu'il nous donne ce dont on a besoin. Mais ce dont un homme a besoin, c'est aussi une épouse. Donc il prie aussi pour une épouse. Et là, maintenant, il termine de prier, et voilà, les chameaux arrivent. Alors, on nous dit comment, lui, il a vu. Lui, il a vu des chameaux arriver. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle voit? Vatissa arrive qu'à être née. Elle aussi, elle lève les yeux, et elle voit Yitzhak. Elle ne sait pas que c'est Yitzhak, mais ce qu'elle voit, c'est un bonhomme. Et elle en tombe, Batipol, mais à la gamane. Elle en tombe du chameau. Tout le monde ne va pas traduire Tipol sous la forme tombée, d'autres vont dire simplement la penchée, elle s'est un peu cachée. Et Rashi dit, Vateret Yitzhak, Rata Oto Hadur, ותבהה מפנות. יצחק אבינו, quand il priait, il était effrayant. יצחק אבינו, c'est la gvura. C'est la puissance, c'est la force. Il priait, en particulier, il priait avec les bras vers le haut. Nous, on n'a pas le droit de prier avec les bras vers le haut, mais il y a quelqu'un d'autre qui a prié avec les bras vers le haut, c'est Moshe Rabbeinu au moment de la guerre contre Amalek. Quand il est sur la colline, là, il prie avec les bras vers le haut. Seul quand les très grands personnages, on doit prier avec les mains vers le haut. Et donc, enfin, par ça, il était probablement une image un peu effrayante, enfin suffisamment effrayante. Il a, en fait, quand quelqu'un est quelqu'un de grand, alors il a quelque chose qui marque qu'il est grand. Alors, c'est pas toujours effrayant, mais on voit la grandeur. Et là, il se passe quelque chose de très important. Normalement, Eliezer, il aurait dû ramener Rivka dans la maison d'Abraham. Et ensuite, Abraham allait faire les présentations avec Yitzhak. Mais visiblement, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu ça. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu parce que si Rivka était allée chez Abraham d'abord, alors Abraham lui aurait parlé, il l'aurait convaincu, il lui aurait expliqué qui est Yitzhak, etc. Et du coup, Yitzhak n'aurait plus été si effrayant. Visiblement, Akadosh Baruch Hu voulait que cet état d'effroi, littéralement, ce rapport particulier-là, il imprègne les relations entre Rivka et Yitzhak de façon permanente. Que Yitzhak soit quelqu'un d'effrayant, c'est aussi très compréhensible. Si on se souvient quand même, c'est quelqu'un qui était sur le misbéach, il avait son père qui était en train de faire la shrita, de l'égorger, de ligoter, etc. Et certains disent que les malachim pleuraient, que les larmes des malachim sont entrées dans les yeux de Yitzhak. C'est la raison pour laquelle, à la fin de sa vie, il était quasiment aveugle. De toute manière, il a vécu quelque chose qui fait que on ne peut pas avoir avec lui des relations normal, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire que Rivka n'aura jamais avec Yitzhak les relations que Sarah avait avec Abraham ou que Rachel avait avec Yaakov. Sarah ou Rachel, quand elles ont quelque chose à dire à leur mari, elles le disent, même si ça fait des étincelles. Mais Rivka ne lui dira jamais rien. Mais ça ne veut pas dire qu'elle accepte bêtement tout ça. Qu'elle accepte tout ce qu'il fait, pas du tout. Elle tire les ficelles derrière son dos. Finalement, c'est elle qui a complètement manipulé toute la situation avec Esav et Yaakov. Elle l'a manipulé contre ce qu'elle savait clairement de ce que voulait Yitzhak. Mais le rapport, on a l'impression qu'elle ne peut pas, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas dire à Yitzhak, lui expliquer qu'elle savait qui était vraiment Esav. C'est pas possible. Alors elle fait ce qu'il faut pour que les brachot arrivent chez Yaakov et pas chez Esav. C'est un patriarche particulier, ce Yitzhak Avinu. Au moment de Rosh Hashanah, on avait rapporté ce chazal qui dit que les Bnei Israël, finalement, ils disent, Yitzhak, c'est le patriarche de Rosh Hashanah. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a Yitzhak, le Brit, etc. C'est Yitzhak, c'est lui. C'est, on dit que chazal, on dit que les Bnei Israël ont dit, toi, tu es vraiment notre père. Parce qu'Abraham et Yaakov, quand on leur a dit que les Bnei Israël allaient partir en Galoute, etc., ils ont pas vraiment réagi. Ils n'ont pas défendu les Bnei Israël. Lui, il a défendu les Bnei Israël. Ensuite, il y a ces fameux midrash que je vous ai déjà raconté plusieurs fois, dans lequel il semble que Rivka est là, toute la destinée, en quelque sorte, des Shvatim, des 12 tribus. Tout ça, et même le fait qu'il y ait un troisième patriarche, tout ça c'est, d'après le midrash en question, tout ça c'est Rivka qui l'a fait. Normalement, il n'y avait que deux patriarches. Parce qu'elle devait avoir déjà le 12 tribus. Mais c'est elle qui n'a pas voulu, d'après le midrash. Je crois qu'on en reparlera à Toldot, peut-être, rapidement. Mais en tout cas, Rivka va jouer un rôle absolument fondamental. C'est d'après ça, on a l'impression que c'est la personne qui a joué le rôle le plus grand dans l'histoire juive, en fait. Mais très souvent, on parle, quand on parle des avot, y compris dans la tfila, on dit « Chesed l'Abraham, Behemet le Yaakov », etc. On ne parle même pas d'Israël. Yitzhak, c'est quelqu'un qui saura que Yosef n'est pas mort. Il va être assis à côté de Yaakov qui se désole, etc. Mais il lui dira pas parce qu'il n'a pas le droit de le dire. Il connaît ça par un devoir. Il n'a pas le droit de le dire parce qu'on ne lui a pas ordonné de le dire. Voilà, donc... Elle voit, elle est effrayée. Ensuite, elle voit aussi que Eliezer va discuter avec Yitzhak. Bon, ça veut dire, bon, il est effrayant, mais on peut lui parler. Visiblement, Eliezer, en tout cas, il peut lui parler. Et alors on nous dit, voilà, Yitzhak, effectivement, Eliezer, il va chez Yitzhak et il lui raconte, il s'affaire. « Eved le Yitzhak et kol advarim asher asa. » Rashi dit, il lui a dévoilé tous les miracles qui ont eu lieu. On ne peut pas dire qu'ils ont simplement fait la conversation. Surtout avec Yitzhak, pour le moment, vous ne pouvez pas le raconter. Le raconter. Comment était le paysage? Effectivement, Yitzhak amène. Il amène Rivka dans la tente de Sarah. Sa mère. Et ensuite, Vayikach et Rivka, ça veut dire, il a donné des kiddushin à Rivka, je reviens tout de suite, Vati lo leisha, elle est devenue son épouse, Yahvea, il l'a aimé, et puis ensuite, on dit, Vayinachem, Yitzhak achareinu. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Et Vainachem Yitzhak Achreimo, et le mot Vainachem après, nous on traduira par consoler, on verra ce qu'on peut en dire. En vérité, ce qui s'est passé, c'est que Eliezer, quand il a donné ses cadeaux qu'il a donné à Rivka, il a donné des kiddushin à Rivka au nom de Yitzhak. Ne demandez pas où étaient les témoins, c'est peut-être les gens qui étaient avec Eliezer. Mais en vérité, en tant que Eved, il peut pas être un chaliar, il peut pas vraiment être un envoyé. Donc, c'est seulement les kiddushin et les kiddushin midérabanan, si on peut parler comme ça. Et c'est pour ça que Yitzhak, quand il épouse Rivka, il lui redonne des kiddushin. Rivka, ça veut dire il lui a redonné des kiddushin. Ensuite, donc, elle est devenue son épouse et il l'a aimée. Enfin, oui. Et puis seulement après, je mets l'accent sur le seulement après. Après, Vayinachem Yitzhak Achareimo, il s'est consolé de la perte de sa mère. Il faut essayer de voir un peu ce que ça peut vouloir dire. Je vous ai dit le résidu, le reste donc de Akedat Yitzhak, après tout, c'est la mort de Sarah. La mort de Sarah, ça veut dire que dans la vie d'Abraham, de Yitzhak, la fameuse nuée qui était sur la tente en permanence de Sarah, ce qui est un peu pratiquement comme les nuées de gloire qui ont accompagné les Bnei Israël. Donc c'était la manifestation de la présence divine dans la maison de Sarah. Et ensuite, il y avait toujours la bracha. Et ensuite, il y avait la bracha permanente dans la tente de Sarah. Tout ça avait disparu. Et ce qui est dit là, c'est que quand il a fait entrer Rivka dans la tente de Sarah, tout est revenu. C'est-à-dire cette jeune Rivka, en fait, quel que soit l'âge qu'elle avait, elle était très très jeune, elle se trouve d'emblée, déjà, au même niveau que Sarah, qui avait 127 ans, et tout ce qu'elle avait derrière elle. Bon, elle entre, et puis, tout de suite, la maison. La maison, c'est quelque chose de très important. La tente de Sarah, c'est la maison. La maison d'Abraham, c'était la maison que Sarah faisait. Bien sûr qu'Abraham, quand il amenait les gens, probablement qu'il mettait la main à la pâte aussi pour calmer les féministes. Et enfin, c'est vrai, c'est écrit comme ça. Mais c'était Sarah qui faisait le boulot. Et donc, Sarah, elle joue un rôle fondamental, la maison. Et donc maintenant, Yitzhak, il veut aussi, faut qu'il ait une maison aussi. Alors, quand on dit elle a Sarah, ça veut dire la maison d'Yitzhak, désormais, elle a déjà les caractéristiques, la positivité de la maison de Sarah. Donc Yitzhak, il va entrer dans une maison qui est la maison, qui est la même maison que celle dans laquelle il a grandi, en fait. Et donc, quelque part, ça veut dire on va pouvoir continuer. Il n'y a pas tout un... C'est intéressant, c'est que... ils vont faire les choses complètement différemment, comme vous savez déjà quand même que... On va voir dans Parchat Toldot la semaine prochaine que Yitzhak Avinu, il va creuser les mêmes puits que Abraham. Et puis, ils avaient été bouchés par les Philistins, qui ne voulaient rien devoir à Abraham. Mais quand Abraham avait creusé les puits, on pouvait venir s'abreuver dans les puits d'Abraham, gracieusement. Yitzhak Avinu, lui, il a creusé les puits, mais il fallait payer pour avoir l'eau. Lui, il fait payer. Donc, quelque part, il va refaire certaines choses, mais il va leur donner un autre sens. Il va leur donner une autre dimension. Alors, lui, il a besoin, lui qui est la Gvoura, cette Gvoura, elle doit être compensée, elle doit être associée au Chesed. Et Rivka, vous voyez bien le test que Eliezer a fait, c'est un test de Chesed. Rivka, elle a bien avec son Chesed. Et donc, ensemble, le Chesed plus la Gvoura, c'est ça qui produit le Emet. Le Emet, c'est Yaakov. Le Emet est le produit de Chesed et de Gvoura. Donc, on a besoin des deux. Effectivement, Rivka, elle amène cela, et ça se manifeste avant tout dans la maison Et la maison, c'est la maison de Sarah. On n'aura plus ça avec Yaakov, puisque ils sont chez Laban, très longtemps. Après, qu'est-ce qui va se passer après, je ne sais pas. J'ai pas vu de texte qui dise quoi que ce soit à ce sujet-là. Mais bon, Yitzhak Avinu, il voit que Rivka est tout à fait à la hauteur, donc il l'aime, d'autres disent il l'aime, c'est aussi physique, aussi, bon. Et il se console de la perte de sa mère. Alors évidemment, il y a des gens qui vont faire de l'Œdipe là-dedans, qui vont ramener de l'Œdipe, évidemment, suivant comment ils veulent lire. Maintenant, Rav Volbe disait que ce qu'on appelle, nous, Nechama, la consolation, ça veut dire essayer de faire oublier la perte qu'on a subie, quoi. Mais ça, c'est ce que les gens disent. Mais dans la Torah, c'est pas ça que ça veut dire. Dans la Torah, c'est en fait, c'est que son idée, c'est la suivante, c'est que tout le monde a besoin de quelqu'un d'autre. Tout le monde a besoin, dit-il, d'une aide, d'une Ezra. On voit très bien que dès le départ, quand Adam Boko a créé Chava, elle est créée comme une aide. Ça va être réciproque, mais c'est le problème d'une entraide entre les deux. Il y a l'aide des parents pour les enfants, quand ils sont petits en tout cas. Puis après, l'entraide dans le couple. Et puis ensuite, il y a les entraides entre le maître et l'élève, etc. Et quand on dit que Vaïnachem Reimo, que ça veut dire que jusque-là, sa mère, la mère de Yitzhak, était un soutien pour Yitzhak. Abraham aussi, probablement, mais Sarah en particulier, elle était un soutien, pas simplement, c'est pas que c'était une mère juive, on ne veut pas dire que c'est l'ancêtre de la mère juive, mais elle était vraiment un soutien. Et maintenant, tout à coup, il s'aperçoit que Rivka est capable de jouer ce rôle de soutien. Et c'est ça que la Torah veut dire quand elle dit Vaïnachem achareimo, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment de cette nouveauté, si vous voulez. Il est capable, Yitzhak Avinu est capable maintenant de ressentir que voilà, il y a un nouveau point d'appui en quelque sorte. Donc elle est à ce niveau-là. Ça veut dire elle peut jouer le rôle que sa mère pouvait jouer dans son développement, en quelque sorte. Le Brisquerov, il faisait remarquer, Eliezer, il a raconté à Yitzhak tous les nissim qui ont eu lieu quand il a trouvé Rivka. Donc, c'est clair que Rivka est le chidour d'Yitzhak. Alors, pourquoi est-ce que il faut encore regarder Yitzhak quand même quand il l'amène dans la tente de sa mère? C'est aussi pour voir est-ce qu'elle va jouer le rôle. Et là, il s'aperçoit qu'elle joue ce rôle. Pourquoi il fallait cette bdika là? Parce que il ne l'a finalement épousée qu'après avoir vu cela. Il l'a amenée dans Oel Sarah. Et donc, il a vu que la maison redevenait comme elle était au temps de Sarah. À ce moment-là, il écarte Rivka. À ce moment-là, il a vraiment épousé Rivka. Alors, parce qu'on se demande pourquoi il avait besoin de tout ça. Après tout ce que Eliezer a raconté, on voit en tout cas de là que même si on peut apporter des preuves d'un miracle, etc. Mais quand on veut savoir qui elle est, une femme, il faut regarder ses actions à elle. Donc lui, Eliezer, il a regardé qui elle était, il a regardé les midotes, si vraiment elle était balade chesed, ce qu'il a regardé. Mais Yitzhak, il voulait voir si elle pouvait vraiment jouer un rôle peut-être de matriarche, disons. Est-ce qu'elle peut l'aider à jouer son rôle de patriarche? De même que Sarah a permis à Abraham d'être le patriarche, est-ce que Rivka peut jouer ce rôle-là? Il pouvait le voir que de cette manière-là, et tout ce que Eliezer pouvait lui raconter, ça veut dire bien sûr, elle est parfaite, mais elle n'est pas adéquate, elle n'est pas capable de jouer ce rôle-là. Donc c'est curieux, elle va jouer un rôle de soutien, etc. pour Yitzhak, sans qu'il puisse jamais vraiment communiquer. Mais ça, c'est pas son défaut à elle, c'est lui qui est devenu.